de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Suga maintient le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères dans le nouveau cabinet japonais. La Chine déclare les exercices militaires près de Taïwan comme mesure nécessaire. La Russie fournira 100 millions de doses de vaccins à l'Inde. En collaboration avec l'UNICEF, l'Indonésie se prépare à acheter et à distribuer le vaccin de COVID-19. CPOPC, l'étiquette sans huile de palme, a un impact encore plus négatif sur les produits du palmier. Le ministère indonésien de l'Industrie encourage le développement de l'industrie nationale de l'acier en amont. L'Union européenne révèle son intention d'être plus résiliente à la crise. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Suga maintient le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères dans le nouveau cabinet japonais. Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Yoshihide Suga, remplace officiellement Shinzo Abe au poste de premier ministre japonais aux élections législatives de mercredi 16 septembre. En tant que nouveau chef du Parti libéral-démocrate, LDP, Suga se concentrera sur la relance de l'économie durement touchée par le Japon, tout en continuant à contrôler le nouveau coronavirus. Le ministre de la Santé, Katsunobu Kato, a été choisi pour remplacer Suga au poste de secrétaire du cabinet. Ce poste est considéré comme un poste important qui fonctionne en tant que coordonnateur des politiques et porte-parole du gouvernement. De nombreux autres membres du cabinet, comme le ministre des Finances Taro Aso et le ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi, restent dans le cabinet. La Chine déclare les exercices militaires près de Taïwan comme mesure nécessaire. L'exercice militaire de la Chine à l'offshore du sud-ouest de Taïwan la semaine dernière était une mesure nécessaire pour protéger la souveraineté chinoise, a déclaré mercredi Pékin. La déclaration a été faite par le gouvernement chinois après que Taïwan se soit plaint que les exercices navals et aériens à grande échelle étaient un acte de provocation grave. La Chine, qui revendique Taïwan démocratique comme son propre, a intensifié l'activité militaire près de l'île. Cette décision est considérée comme une intimidation pour forcer Taïwan à accepter la domination chinoise. Taïwan a critiqué l'exercice de deux jours de la Chine la semaine dernière, qui selon elle a eu lieu dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan entre Taïwan et les îles Pratas contrôlées par Taïwan. Le porte-parole du bureau chinois pour les affaires de Taïwan, Ma Xiongwang, a donné la première explication publiée sur l'exercice, affirmant que Taïwan est une partie sacrée et inséparable de la Chine. La Russie fournira 100 millions de doses de vaccin à l'Inde. La Russie a accepté de fournir 100 millions de doses du vaccin COVID-19 Sputnik V à l'Inde. Cela correspond à la volonté de Moscou d'accélérer son processus de distribution à l'étranger, qui s'est engagé à distribuer des vaccins après que le Fonds d'investissement direct russe RDIF a conclu un accord avec la société pharmaceutique indienne Dr. Reddy's Laboratories. Le Dr. Reddy's est l'une des principales sociétés pharmaceutiques en Inde et mènera un essai clinique de vaccin de troisième phase dans le pays. Selon RDIF, la société attend actuellement l'approbation réglementaire. Le vice-président des laboratoires du Dr. Reddy, G.V. Prasad, a déclaré que les résultats de première et de deuxième phase des essais de Sputnik V étaient très prometteurs. Le vaccin Sputnik V pourrait constituer une option crédible dans la lutte contre la COVID-19 en Inde. Ainsi, dans un communiqué publié par le RDIF mercredi 16 septembre, le RDIF a déclaré que les expéditions du vaccin Sputnik V pourraient commencer en fin de 2020. La Russie a désigné Sputnik V comme le premier vaccin COVID-19 enregistré au monde. En collaboration avec l'UNICEF, l'Indonésie se prépare à acheter et à distribuer le vaccin de COVID-19. Le gouvernement indonésien et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, ont signé un mémorandum d'accord sur la fourniture de services d'achat qui est entre autres préparé pour l'achat et la distribution du vaccin de COVID-19. Avec ce protocole d'accord, on espère que si le vaccin par le biais d'un mécanisme multilatéral existe déjà, toutes les infrastructures nécessaires sont prêtes pour qu'il n'y ait pas de retard dans sa distribution. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui a également assisté à la signature du protocole d'accord entre le ministère indonésien de la Santé et l'UNICEF Indonésie, qui a été diffusé virtuellement mercredi. Depuis le début de la pandémie, l'Indonésie n'a cessé pas de souligner l'importance de l'accès et des vaccins égaux, sur un abordable à la fois par les voies bilatérales et multilatérales. Selon le ministre Retno, l'Indonésie a été désignée comme l'un des pays qui se qualifie comme catégorie d'engagement de Advanced Market Commitment, AMC, dans le cadre de Gavi-Covax Facility. Selon Deborah Comini, représentante de l'UNICEF pour l'Indonésie, basée à Copenhague au Danemark, la division des approvisionnements de l'UNICEF répond actuellement aux besoins de 140 pays membres, dont l'Indonésie. COPC, l'étiquette sans huile de palme, a un impact encore plus négatif sur les produits du palmier. Les pays membres du Conseil des producteurs d'huile de palme CPOPC considère l'étiquette sans l'huile de palme comme une autre forme de boycott des produits à base d'huile de palme, qui sont l'un des principaux produits d'exportation de l'Indonésie. Le directeur exécutif adjoint de la CPOPC, Dupito De Simamora, lors d'un webinaire intitulé « L'étiquetage trompeur des aliments menace le marché de l'huile de palme », a déclaré mercredi que l'étiquette sans huile de palme est une autre forme de boycott qui pourrait avoir un impact beaucoup plus négatif sur l'huile de palme car elle affecte directement les consommateurs. Selon lui, la circulation d'un certain nombre de produits de l'Union européenne avec l'étiquetage sur le marché est utilisée comme stratégie de marketing pour montrer que les produits à base d'huile végétale, autre que l'huile de palme, sont plus sains et plus respectueux de l'environnement. Il a expliqué que l'existence dans l'étiquetage sans l'huile de palme n'était en fait pas fondée sur des réglementations, mais était purement menée par le secteur privé. Même l'étiquetage est contraire aux dispositions de l'Union européenne. Au moins, il y a une disposition dans l'Union européenne elle-même qui interdit l'information sur les denrées alimentaires. Elle ne peut pas être trompeuse. Le ministère indonésien de l'Industrie encourage le développement de l'industrie nationale de l'acier en Ambon. Le ministère indonésien de l'Industrie encourage le développement de l'industrie sidérurgique intérieure en Ambon car il a un effet multiplicateur important pour le développement économique de l'Indonésie. Le directeur général du métal, des machines, des équipements de transport et de l'électronique, Ilmat, du ministère de l'Industrie, Taufik Bawazir, lors d'un webinaire mercredi, a déclaré que de nombreuses parties sont actuellement préoccupées par les fonderies de nickel à valeur ajoutée, même si les fonderies de minerais ferreux qui produisent de l'acier sont encore très minimes. Selon Taufik, ces produits de fonderie de fer sont très importants pour les projets gouvernementaux, y compris les moyens de transport. Malheureusement, ces produits sont actuellement fournis de l'étranger. Taufik admet qu'en termes de prix, l'Indonésie n'est en effet pas en mesure de concurrencer la Chine pour les produits sidérurgiques. Cela est raisonnable étant donné que la Chine contrôle 53% de l'acier mondial, qui totalise 1800 millions de tonnes. Pendant ce temps, l'Indonésie n'a pu produire que 6,5 millions de tonnes, soit seulement 0,07% de l'acier total mondial. Taufik a déclaré qu'il était nécessaire d'encourager le développement de l'industrie sidérurgique en aval, qui est très demandé, atteignant 16 millions de tonnes. L'Union européenne révèle son intention d'être plus résiliente à la crise. Le directeur général de l'Union européenne donne une image sérieuse de l'Europe aux prises avec la pandémie et la récession les plus profondes de l'histoire. Et fixe des objectifs ambitieux pour rendre les 27 pays de l'Union européenne plus résilients aux crises futures. Dans son discours annuel de mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a doublé les principaux objectifs qu'elle s'était fixés lors de sa prise de fonction en décembre dernier, à savoir la protection du climat et la révolution numérique. Elle a dévoilé un plan visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'au moins 55% par rapport au niveau d'émissions de 1990, qu'elle visera jusqu'en 2030. Cet objectif est en hausse par rapport à l'objectif précédent de 40%. Elle a également appelé à davantage d'investissements dans la technologie afin que l'Europe puisse concurrencer plus fortement la Chine et les États-Unis. Mon cher Jolitard, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, la projection de la croissance économique de l'Indonésie. Mardi le 15 septembre, l'Agence centrale de statistiques, ou BPS, a annoncé que les importations de l'Indonésie avaient connu une croissance négative en août 2020. Cependant, la balance commerciale a enregistré un excédent car les exportations étaient supérieures aux importations. BPS a annoncé que les chiffres d'importation de l'Indonésie pour août 2020 étaient de 10,74 milliards dollars américains. Pendant ce temps, la valeur des exportations était de 13,07 milliards dollars américains. Ainsi, la balance commerciale de l'Indonésie en août 2020 a dégagé un excédent de 2,33 milliards dollars américains. Cet excédent de la balance commerciale a été une surprise au milieu de la pandémie de COVID-19 qui a provoqué un déclin et le ralentissement économique qui s'est produit non seulement en Indonésie, mais aussi dans presque tous les pays. Voyant le développement de l'économie indonésienne au cours de la période difficile actuelle, la Banque asiatique de développement, ou BAD, prévoit que la croissance économique d'Indonésie s'améliorera au début de 2021. L'économiste de la BAD pour l'Indonésie, Emma Allen, lors d'un webinaire sur les perspectives de développement asiatique 2020 à Jakarta, mardi, a déclaré que la BAD prévoyait une reprise rapide car la demande intérieure est en mesure de stimuler l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier pour qu'il dépasse la seuil de 5 ans en août. Par conséquent, dans sa publication économique annuelle, la nouvelle publication Asian Development Outlook 2020 maintient également ses prévisions de croissance économique de 5,3% pour l'Indonésie l'année prochaine après avoir connu une contraction d'un pour cent en 2020. Ce qui est transmis par la BAD concernant la projection de la croissance économique d'Indonésie qui s'améliorerait en 2021 n'était pas trop différent de l'exposition du gouvernement au Parlement la semaine dernière. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, lors d'une réunion de travail avec l'agence budgétaire du Parlement, a déclaré la semaine dernière que la croissance économique de RAPBN 2021, qui devait initialement se situer à un niveau compris entre 4,5% jusqu'à 5,5%, est désormais de 5%. Il a également expliqué que le changement de l'objectif de croissance économique était la bonne décision qui illustre l'espoir et la prudence face à des conditions incertaines en 2020. En fait, l'épidémie de virus corona est un coup dévastateur pour la croissance économique dans presque tous les pays. Pour l'Indonésie, la contraction d'un pour cent au quatrième trimestre a été rare après la crise financière de 1997-1998. Cependant, avec de nombreuses politiques prises par le gouvernement, par exemple en fournissant une aide en espèces pour encourager les dépenses antérieures, en offrant une marge de manœuvre pour investir et faire des affaires, donne l'espoir de rétablir les conditions économiques en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. Même si l'Indonésie est désormais confrontée à la menace de la deuxième vague du virus corona, la gestion conjointe de COVID-19 avec plusieurs pays, notamment dans la fabrication de vaccins qui est actuellement en phase d'essais cliniques finaux, a donné l'espoir au public de pouvoir vivre une vie saine et normale avant que l'économie se relance dans le domaine de l'industrie, des services, de la fabrication et du tourisme. Serge Rita, c'était le commentaire pour ce soir.
Oh,
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le programme L'Histoire d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi Audrey. Chers amis, nous commençons avec l'événement de 1945. On a fondé la Croix-Rouge indonésienne. La lutte pour la création de la Croix-Rouge indonésienne, ou bien Palang Merah Indonesia, a commencé en 1932. Cette activité a été lancée par le docteur R.C.L. Senduk et docteur Bahdar Johan en réalisant une conception pour la formation de PMI. Le processus de formation du PMI, ou bien Palang Merah Indonesia, après la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie, a commencé le 3 septembre 1945. À ce moment-là, le président Sukarno a ordonné au ministre indonésien de la Santé de cette époque, le docteur Buntaran Martoatmojo, pour former une agence nationale de la Croix-Rouge. Exactement un mois après l'indépendance de l'Indonésie, le 17 septembre 1945, le PMI a été formé. On connaît jusqu'à présent cet événement historique sous le nom de la journée de PMI, ou la journée de la Croix-Rouge. Chers amis, on continue l'histoire d'aujourd'hui avec la Journée nationale des transports tous les 17 septembre de chaque année. Avant de fixer une Journée nationale des transports, chaque entreprise publique active dans le secteur des transports a célébré leurs anniversaires respectifs à des dates différentes et adjacentes. En termes de temps et de coûts, on a trouvé que les commémorations adjacentes, célébrant presque la même chose, était inefficace. Ainsi, en 1971, on a fixé une commémoration de la Journée nationale des transports pour unir la commémoration des jours de service de tous les BUMN engagés dans le secteur des transports, soit le 17 septembre. Cette Journée nationale des transports a été instituée en 1971 par un décret du ministre des Transports du 26 août 1971. Chers amis, on continue l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 17 septembre 1978. L'accord de paix de Camp David pour la paix au Moyen-Orient a été signé le 17 septembre 1978 à la Maison Blanche, à Washington, D.C. Le président américain Jimmy Carter a présidé les entreprises de 12 jours entre le président égyptien Anwar Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin. L'accord tire son nom du lieu de repos des présidents américains, Camp David, dans le comté de Frederick, dans le Maryland, où les pourparlers ont eu lieu. Cet accord a également donné naissance à l'accord de paix Israël-Égypte en 1979. Mon cher Jolitard, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Kita berkumpul bersama, menikmati indah.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et encore le titre. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a affirmé que les communautés jouent un rôle important dans la réhabilitation des bassins versants. Le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Alou Dohong, a encouragé des rôles communautaires plus optimisés dans la gestion des forêts, en particulier dans la réhabilitation des bassins versants. Il a dit cela lors d'un discours liminaire lors du webinaire sur la réhabilitation des bassins versants lundi. Selon lui, la communauté ne doit pas seulement être utilisée comme un objet, mais doit devenir un crowdsourcing avec d'autres forces, à la fois des secteurs du gouvernement central et local, des universitaires, des chercheurs, des militants écologistes et du monde des affaires qui sont ensuite encouragés par les médias à pouvoir s'unir en une force puissante. Dans cette activité, Alou a eu l'occasion de discuter via des installations de vidéoconférence avec la communauté qui menait des activités de plantation d'arbres dans le cadre de la réhabilitation des bassins versants. Il a également exprimé sa reconnaissance et son admiration pour la préoccupation et l'enthousiasme de la communauté à accueillir le programme de restauration des zones forestières par le biais des activités de réhabilitation des bassins versants. Alou a également conseillé à ceux qui ont l'obligation de procéder à la réhabilitation des terres de donner plus de rôle et de confiance à la communauté dans la mise en œuvre de la réhabilitation des bassins versants à partir de la préparation des semences, la préparation des terres, la plantation, l'entretien des plantes jusqu'à la protection des plantes contre les ravageurs et les dangers des incendies. En outre, Alou a révélé qu'il est temps pour chaque acte commercial, en particulier les titulaires de permis de l'emprunt et d'utilisation de superficie forestière, d'avoir une vision et une perspective plus large des efforts visant à améliorer l'environnement. Selon lui, les entrepreneurs ne devraient pas seulement regarder l'emplacement de leur entreprise, mais aussi participer à l'amélioration du bassin versant autour de leur entreprise. Actuellement, il est nécessaire de décaler la valeur. Si auparavant les entrepreneurs ne poursuivent que le profit, il est temps qu'ils aient la responsabilité morale d'améliorer l'environnement et d'améliorer le bien-être de la communauté autour des opérations de l'entreprise. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Luluhkan hatimu dan aku tak bisa menyentuh cintamu seiring jejak kakiku bergetar aku telah terpagut oleh cintamu menelusup hariku dengan harapan namun kau masih terdiam membisu. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, dekat penuh harapan mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban memilikimu. Oh, betapa pilun jarindu menusuk jiwaku. Semoga kau tahu isi hatiku. Dan seiring waktu yang terus berputar, aku masih terhanyut dalam mimpiku. Oh, sepenuhnya aku ingin memelukmu, dekat penuh harapan mencintaimu. Aku akan nanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Oh, 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 oh,
chers auditeurs, c'était la 12e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Bonsoir chers amis, vous écoutez La Voix de l'Indonésie à Jakarta et voici le magazine culturel. Pour présenter les beautés de divers sites touristiques en Indonésie, des plages, des montagnes, des cascades, des traditions, des repas typiques, des forêts, des parcs naturels et des lacs. Vous êtes avec moi Audrey, et cette fois, nous allons vous présenter le tourisme de Dusun Butuh. Chers amis, voyagez à Magelang, Java centrale, pas seulement le temple de Borobudur que vous pouvez visiter. Cette ville possède de nombreux autres objets touristiques intéressants. Par exemple, le Dusun Butuh, le village le plus haut de Magelang. L'emplacement est sur les pentes du mont Sumbing. Ce village touristique est situé à une altitude de 1700 mètres d'altitude. Dans ce village, les maisons sont uniquement alignées juste sous le mont Sumbing. Beaucoup de gens pensent à la vue des rangées de maisons sur les pentes de cette montagne comme au Népal. L'emplacement de ce village est à environ 20 km, environ une demi-heure de route de la ville de Magelang à moto. La population totale du village est d'environ 610 familles et 2500 personnes. La majorité des habitants travaillent comme agriculteurs. Ils cultivent une variété de légumes comme des pommes de terre, carottes, choux et autres légumes. Le tour de la maison des habitants du Dusun Butuh est tout à fait unique. Les maisons sont construites de manière régulière, suivant les contours du pied du mont Sumbing. Dans le passé, avant la construction de la maison, le terrain était le champ agricole d'un habitant, de sorte que le bâtiment de la maison suivait les contours du terrain. D'en bas, il continue jusqu'à la pente la plus haute. chers amis, pour ceux qui aiment les paysages naturels et le pistage, peuvent visiter ce village. En parcourant le village, vous pouvez prendre des photos avec vue sur une rangée de maisons sur les pentes d'une montagne comme au Népal. Vous pouvez également voir l'étendue des cultures maraîchères. Et si le temps est clair, vous pouvez voir le Mont Sumbing de loin. De plus, pour ceux qui aiment la randonnée, ce village est l'un des camps de base pour l'ascension du Mont Sumbing. En face de ce camp de base, vous pouvez voir la vue de loin tout en dégustant des délices culinaires locaux. C'est tout le magazine culturel pour aujourd'hui. Merci beaucoup et au revoir.
Serpihan hati ini atas dasar cintamu, hidupku kembali.
Ku rasa kembali jatuh hati ini ke dalam sayang dulu yang telah membunuhku. Bersama dirimu ku bernafas lagi, bernafas di dalam cinta yang telah kau beri. Meski sempat ku rasa ini takkan terjadi, namun ku akui ku jatuh cinta lagi. Kesendirianku berakhir di sini, ku temukan hidup yang baru bersama denganmu. Ku satukan lagi serpihan hati ini atas dasar cintamu, hidupku kembali. Denganmu ku satukan lagi
atas dasar cintamu.
Atas dasar cintamu.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se rencontre encore dans la rubrique l'Indonésie en couleur. Vous êtes avec moi, Audrey. Cette fois, vous allez écouter l'information sur Stunta 10 Pindad, destructeur de déchets sans fumée. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. Chers amis, le 3 septembre dernier, le gouverneur de Java occidental Ridwan Kamil a lancé Stunta 10 Pindad, un produit d'élimination des déchets respectueux de l'environnement créé par les enfants de la nation Opakuan Building Bandung. Stunta 10 Pindad est une solution pour gérer les problèmes de déchets en utilisant la technologie des incinérateurs sans fumée. Une machine à brûler les déchets qui adoptent une technologie écologique et économe en énergie. Harry Swan, directeur commercial des produits industriels de Pindad SA, a déclaré que Stunta 10 Pindad est une solution innovante et bénéfique pour l'environnement et prête à être produite en masse. Harry Swan a en outre déclaré que la présence de ce produit peut améliorer la qualité de l'environnement, le développement social et la santé, en particulier dans les conditions actuelles de la pandémie COVID-19. Serge Littard, on prétend que Stunta est un incinérateur respectueux de l'environnement qui ne produit pas de fumée ni d'autres substances nocives, car il a passé avec succès la combustion à double brûleur, le filtre et le traitement de la fumée. Le système de réchaud est censé être efficace dans l'utilisation du combustible. Le brûlage des ordures peut être effectué en continu car il n'utilise pas le système d'ouverture de la porte de la chambre de combustion comme les autres produits d'incinération qui nécessitent que le brûleur soit atteint avant d'ajouter de nouveaux déchets. La température de combustion de Stunta varie de 800 à 1200 degrés Celsius, ce qui est censé être capable de détruire tous les types de déchets secs et humides. Le résultat de la combustion est dominé par les 5% restants du volume initial de déchets. Stunta a également un design compact de petite taille et est facile à déplacer car il dispose d'une source d'alimentation indépendante. Thank you. Chers amis, Stontadis Pindad est le résultat d'une coopération entre Pindad SA avec Top Techno Indo SA, Hejo Techno. Pindad et Hejo Techno ont commencé la coopération de production Stunta en signant le protocole d'accord le 26 juillet 2020. Coopération liée à la production conjointe, aux activités de certification et à d'autres activités commerciales. Le produit vise à être transformateur de résidus de déchets, à savoir la sélection des déchets qui ne peuvent pas être réutilisés. Serge Littard, c'est tout la rubrique L'Indonésie en couleur pour ce soir, intitulée Stontadis Pindad, destructeur de déchets sans fumée. Merci beaucoup de votre attention et au revoir.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Lagu ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le programme magazine musical. Vous êtes avec moi Audrey. Cette édition, nous vous présentons une chanson intitulée Selamat Jalan Kekasih par Wiliana Saraswati ou mieux connue sous le nom de Wizi. Serge Ami, la chanson Selamat Jalan Kekasih a été créée par Baby Romeo et popularisée par Rita Effendi. Cette chanson est l'une des chansons les plus célèbres de l'album de Rita Effendi intitulé Perempuan, sorti en 2000. La chanson Selamat Jalan Kekasih décrit la tristesse d'une personne dont l'amant la quitte. Même si c'est blessé, il y a toujours de l'amour, même si ce n'est que dans le corps. En 2018, cette chanson a été chantée par Wizi et est redevenue un succès par être la bande originale d'un film intitulé Sidul the Movie. Bonjour, Jéritard. Voici Wizzy, dont le titre est Selamat Jalan Kekasih. Bonne écoute.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz.
Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.